côté des Assos, l'association des Grecs anciens à nos jours, et puis une rencontre avec les associations locales de Florac et de son bassin de vie. Bonjour chers auditeurs et auditrices sachant auditer. Donc voici la deuxième émission concernant les associations en général. Je vais d'abord vous parler de la liberté d'association en France. En France, la liberté d'association est régie donc, comme vous le savez si vous avez entendu la première émission, par la loi de 1901 et en Alsace-Moselle par la loi de 1908. L'association est connue également sous les noms d'organismes à but non lucratif, de sociétés ou encore de clubs. Le Conseil constitutionnel affirme et reconnaît dans sa décision du 16 juillet 1971 son caractère de liberté publique. Dans le principe, elle instaure un régime de droit privé assez souple, un regroupement d'au moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Par société de personnes, on entend que l'appartenance à une association est volontaire et qu'elle ne saurait être ni être obligatoire ni résulter d'un état de fait. Ces statuts sont déclarés en préfecture. Par activité non lucrative, on entend qu'elle peut faire payer des biens ou des services, mais le prix doit correspondre à un défraiement des dépenses nécessaires à ses activités et non pas à une distribution des profits à ses membres. Le caractère désintéressé de l'activité interdit donc la redistribution d'un bénéfice aux associés, mais il n'implique pas évidemment que l'activité soit non commerciale et encore moins déficitaire. L'objet de l'association peut être commercial, tels que la distribution de produits issus du commerce équitable, des actions culturelles, des spectacles, le développement de logiciels, les activités sportives, de remise en forme, etc. Et le bénéfice réalisé est réinvesti dans son développement. Mais il s'agit, dans tous les cas, d'organisation collective de personnes, non de capitaux. Je crois qu'on l'avait déjà insisté dans la première émission. Le mouvement associatif, donc c'était une super association qui groupe toutes les associations, qui s'appelle le mouvement associatif, définit ainsi les trois missions principales des associations dans son manifeste. D'abord, les associations renforcent le lien social. En offrant une alternative au chacun pour soi, les associations, fortes de l'engagement bénévole de millions de personnes, n'opposent pas individus et collectifs. Elles construisent une société solidaire qui fait une place à chacun. D'autre part, les associations humanisent l'économie. Productrices de richesses, sans être animées par le profit, les associations ne veulent plus être le visage d'une autre économie, mais celui de l'économie de demain, durable, respectueuse des formes, des femmes, pardon, et des hommes, et de l'environnement. Et enfin, les associations réveillent la démocratie. Les associations réveillent la démocratie. Diverses et unies, nos associations, fédérations et unions s'engagent à faire vivre ces principes pour construire la société de demain. Les associations font partie, avec les coopératives et les mutuelles, des formes sociétales de l'économie sociale qui ont en commun le fait de participer à la vie économique sans rechercher le profit. Elles n'ont ni personnalité ni existence et respectent certaines formes légales, en particulier d'avoir un statut écrit qui est déposé donc et publié dans un greffe civil. Il me semble que c'est ce qu'on appelle actuellement l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Thank you. Que représente le monde associatif aujourd'hui en France ? Le monde associatif n'est pas rien. Il s'inscrit dans une tradition donc multimillénaire et représente une puissance économique indéniable, pesant dans l'économie de notre pays. Il se caractérise par une grande diversité. En 2017, la France comptait environ 1,5 million d'associations actives. L'augmentation du nombre total d'associations est estimée à environ 33 600 chaque année, en tenant compte des 15% d'associations dissoutes dans l'année. Et puis, il faut tenir compte aussi des associations qui dorment. Alors, pourquoi choisir la forme associative ? C'est qu'elle répond à des besoins sociaux très divers. Elle est surtout utilisée pour ses aspects pratiques. Effectivement, la forme est très souple. Mais justement, il n'y a pas toujours un collectif de citoyens derrière une association. Des personnes peuvent créer une association pour s'employer elles-mêmes. Par exemple, des entrepreneurs de spectacle. Oui, ça, je crois que ça se fait beaucoup dans le monde de la culture. Alors, quels sont les principaux secteurs associatifs en France ? Sur les 8 catégories répertoriées de secteurs d'activité, 3 sont particulièrement importants. D'abord le sport, 24,2%. Et puis, juste après, la culture, 23%. Et les loisirs et la vie sociale, 21,4%. Alors, il faut noter que près de la moitié des associations appartiennent à une fédération ou à un groupement d'associations. Par exemple, le foyer rural que j'ai interrogé l'année dernière fait partie de la Fédération départementale des foyers ruraux, qui elle-même fait partie de la Fédération nationale des foyers ruraux. Alors, le bénévolat est particulièrement développé dans le secteur associatif. Le nombre total de bénévoles est estimé à 22 millions. Ils sont nombreux dans les petites associations, dont le président et les membres du bureau font partie. Seuls 8,7% des associations fonctionnent avec plus de 50 bénévoles. Donc effectivement, il y a beaucoup de petites associations. Mais les associations sont avant tout un gisement pour l'emploi. L'emploi associatif ne cesse d'augmenter depuis les années 80. En 2017, l'effectif salarié associatif s'élevait à 1 758 500 emplois. Il se répartit dans une toute petite partie des 1,5 million d'associations en France, puisqu'en 2017, il y en avait 159 000 qui étaient employeuses, donc ça fait un peu plus de 10% du total. Le principal clivage entre associations est là, celles qui emploient des salariés et puis les autres. Et c'est vrai qu'on ne gère pas de la même façon une association quand il y a des salariés et quand il y a seulement des bénévoles. Différents dispositifs d'aide à l'emploi destinés au secteur non marchand ont vu le jour en 1980-90. Alors, on se souvient, pour les plus âgés comme moi, des TUC, des CES, des CEC, contrats emploi consolidés, etc. Et plus récemment, les contrats aidés, qui ont été supprimés il y a 2 ans, ce qui a mis beaucoup d'associations en difficulté. Alors, ces contrats permettent de lutter contre le chômage et sont une variable d'ajustement de la politique de l'emploi. On peut aussi parler des volontaires du service civique. Alors, pour compléter ce panorama général des associations en France, parlons des financements publics. C'est un point qui fait régulièrement polémique. On constate une évolution de l'engagement public qui, par ailleurs, reste relativement stable. Les financements venant de l'État baissent et ceux des collectivités locales augmentent. Il y a bien sûr deux explications à cela. D'abord, la décentralisation à partir de 1982 et puis la rigueur budgétaire. Ce sont désormais les conseils départementaux, les premiers partenaires financiers des associations, surtout dans le secteur action sociale, santé. Les financements publics sont de deux types. D'une part, les subventions et d'autre part, les commandes publiques. Alors, les subventions, elles sont attribuées sans contrepartie, alors que les commandes publiques relèvent de contrats passés avec les pouvoirs publics en contrepartie des prestations que les associations offrent. L'association intervient alors comme outil des politiques publiques. On assiste depuis les années 1970 à cette montée de la contractualisation. Une autre tendance se fait jour, la privatisation des ressources associatives. En 2017, 56% des financements sont d'origine privée. De plus en plus d'associations doivent les rechercher dans le privé, ainsi le développement du mécénat que l'on entend tous les jours. La dissolution d'une association est une stratégie assumée par Emmanuel Macron. Les associations doivent unir la nation et pas la fracturer, avait exposé le président de la République dans son discours du 2 octobre 2020 contre les séparatismes. Avant d'en tirer la conclusion suivante, afin d'en élargir les possibilités juridiques, les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres seront étendus aux atteintes à la dignité de la personne et aux menaces physiques ou psychiques. La décision de dissoudre une structure soulève néanmoins la question de son efficacité. Auditionnés par une commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite, plusieurs chercheurs avaient souligné le risque d'effets pervers. Les services de police et de renseignement jugent très souvent que la dissolution d'une organisation n'est pas nécessairement la meilleure des idées, en faisant valoir qu'ils surveillent ses membres, savent ce qu'ils font et où ils sont, et ne souhaitent pas qu'on les fasse s'égayer dans la nature. C'est Nicolas Lebourg qui avait exposé ce point de vue. Alors, je voudrais terminer ce panorama en situant le mouvement associatif dans la société d'aujourd'hui. Le 30 décembre dernier, j'ai écouté sur France Inter, dans les carnets de campagne, l'entretien d'un professeur d'université, qui s'appelle Roger Su, qui parlait entre autres d'associativité. L'associativité, matrice de notre société de demain, selon cet auteur. Alors, si vous voulez en savoir plus, il a commis un livre qui se nomme « Le spectre totalitaire, repenser la citoyenneté ». Donc, ça me permet un petit peu d'élargir mon propos. Donc, selon cet auteur, le lien social s'est horizontalisé. Bon, c'est un terme un peu barbare, horizontalisé, mais on comprend ce que ça veut dire. Sa signification est claire. Il règne de plus en plus une relation d'égalité entre les individus, y compris dans le travail. Les conditions se sont rapprochées, il règne une plus grande tolérance, une nouvelle forme du lien social se crée. Il faut donc repenser la citoyenneté. Et où se trouve la citoyenneté, sinon dans les associations ? Nous retrouvons le 1,5 million d'associations existantes aujourd'hui. Pourtant, il n'y a pas de politique spécifique pour les associations, toujours d'après cet auteur Roger Su. Les associations ont un fonctionnement horizontal, contrairement aux politiques, qui seraient plutôt verticales. Les associations devraient être force de proposition, le dernier mot restant quand même aux élus. Ce sont elles qu'il faut consulter en premier et le politique ensuite. Les associations peuvent être innovantes. Par exemple, Internet s'est développé en même temps que la société s'élargissait en réseau. Les associations ont poussé à la recherche dans le combat contre le sida. Et aussi récemment, elles ont été très actives sur la question des masques. Au XIXe siècle, les socialistes prônaient l'association, mais le contexte ne leur était guère favorable. Tout a changé maintenant. L'association n'est plus une utopie, c'est une réalité vécue par beaucoup. Désormais, ce sont les discours et les institutions politiques qui sont en retard sur l'avancée de la société. Alors je m'arrête là avant de refaire le monde et je vous livre en conclusion cette phrase toujours de Roger Su. Le lien social ne se délite pas, il se recompose. Et donc, dans les émissions suivantes, nous verrons comment, ici, il se recompose localement.
Thank you.